Bonjour à tous. Donc nous avons analysé dans les deux dernières séances le premier type de pathologie de la souveraineté du peuple, celle qui consistait à la canaliser et à la réduire sous les espèces de l'aristocratie élective et de la démocratie minimale. À côté de cette pathologie que j'appellerai de la canalisation, il faut maintenant aborder les pathologies de l'accomplissement, celles qui procèdent à un retournement de la démocratie en prétendant l'accomplir. Nous en distinguerons deux catégories. Ce que j'appellerai d'abord les énergétiques, qui entendent réaliser la souveraineté du peuple sous les espèces d'actions directes et immédiates, manière d'apporter une réponse radicale à la question de l'entropie démocratique. En second lieu, je distinguerai les institutions polarisées, celles qui visent à concentrer la souveraineté en exaltant notamment le pouvoir constituant. Et le principal exemple que nous prendrons est celui de la démocratie plébiscitaire. Pour bien appréhender le cadre de développement de ces pathologies, il faut commencer par redire quelques mots sur la figure originaire de la souveraineté du peuple, celle du pouvoir constituant, et rappeler les débats sur son statut dans le temps, ainsi que sur les moyens d'en conserver la force. Le moment constituant s'appréhende comme l'expression d'une souveraineté directement agissante. Il s'identifie au pouvoir de commencement qui suit une révolution ou un changement de régime. En lui, la souveraineté se donne donc immédiatement comme une force créatrice, libre de toute contrainte. Elle est puissance immédiatement active. Ce moment d'incarnation d'une pure souveraineté a marqué l'histoire de toutes les démocraties. Il a cependant été beaucoup plus sensiblement ressenti en France qu'en Amérique. Outre-Atlantique, en effet, la Constitution fédérale de 1787 a surtout parachevé un processus commencé en 1776 avec la Déclaration d'indépendance et l'élaboration consécutive des 13 constitutions des différents États, textes eux-mêmes en partie nourris par les différentes chartes coloniales qui avaient été octroyées par Londres. La situation était bien différente en France. Tout y était à construire. La page était blanche, d'où le sentiment presque enivrant des constituants français d'avoir à créer un ordre nouveau ex nihilo. Sieyès est celui qui a le mieux exprimé en France ces dimensions natives du pouvoir constituant comme pure expression de la souveraineté populaire, comprise comme pouvoir de commandement radicalement autonome, libre de toute entrave, par son objet même d'abord. Le terme de constitution débordait en effet alors celui de code. Il renvoyait à l'idée d'une création, d'une mise en forme et d'une mise en institution, d'un corps à structurer, par son sujet aussi, la nation. Celle-ci existait pour le pouvoir constituant comme un fait, une réalité déjà donnée, comme une histoire aussi. Sieyès disait « La nation existe avant tout, elle est à l'origine de tout. Elle n'a pas à être instituée dans cette mesure. Une nation, disait-il, ne sort jamais de l'état de nature. » Dans le moment constituant, cette nation était donc radicalement libre. Elle était, je le cite, « volonté libre et indépendante ». Elle incarnait bien, dans cette mesure, un pur pouvoir d'auto-institution. « Sa volonté est la loi même », dira encore Sieyès. C'est une formule qui anticipait le célèbre adage constitutionnel selon lequel la loi est l'expression de la volonté générale. Cette idée d'une volonté directement active, totalement effective, sera l'un des principaux thèmes martelés dans « Qu'est-ce que le tiers-État ?». De quelque manière qu'une nation veuille, y lit-on, il suffit qu'elle veuille. Toutes les formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême. Le pouvoir constituant était le véhicule de cette volonté, d'où sa centralité dans l'imaginaire révolutionnaire. Il renvoyait à la fois à l'enregistrement d'une rupture fondatrice et à l'activation d'une volonté générale directement productrice d'effets. La fascination pour ce pouvoir constituant venait ainsi de ce qu'il semblait fait pour illustrer et donner vie aux pages les plus ardentes du contrat social. Le pouvoir constituant, répétait en effet Sieyès, est la volonté nationale. Il peut tout en son genre. Il est libre de toute contrainte et il est libre de toute forme. Le fait que ce pouvoir puisse être confié à des représentants extraordinaires, spécialement nommés à cet effet, lui apparaissait en l'occurrence tout à fait secondaire, purement circonstanciel et matériel, tant l'œuvre d'émancipation et de fondation de la liberté imposait ses évidences et ses urgences. Il n'y avait pas en la matière d'ambiguïté, aucune tentative ou tentation d'appliquer à ces représentants extraordinaires une capacité particulière qui les aurait distingués des citoyens, les ferait considérer comme plus capables d'eux. L'exercice du pouvoir constituant dérivait d'une délégation purement fonctionnelle. Il ne requérait en outre l'exercice d'aucune compétence spéciale. Ces représentants s'imposaient donc comme un fait et ne s'inscrivaient donc nullement dans le cadre des mécanismes ordinaires du gouvernement représentatif. Leur existence était limitée à l'exercice d'une fonction particulière. La question de l'entropie représentative ou de la distinction représentative était donc sans objet dans ce cas, admettait-on. L'essentiel était alors de souligner la spécificité de ce pouvoir constituant en sa singularité. Pouvoir unique et primitif, pouvoir originaire et unique, acte impératif de la nation surgit du néant, pouvoir suprême latent. Voilà toutes les expressions que l'on a vues employées pendant l'été 1789. Ces formules saisissantes ont alors été forgées pour suggérer la nature de ce pouvoir constituant et en dire la puissance de création d'un ordre nouveau. Un juriste du début du XXe siècle, et ça n'est pas n'importe qui, parce que c'est Ulrich Preuss qui a été le principal rédacteur de la Constitution de 1919 en Allemagne, qui a donné naissance à la République de Weimar, en parlera de son côté de façon imagée, je le cite, « comme de la version sécularisée du pouvoir divin de créer un ordre sans y être soumis. » En même temps que la nation qu'il exerçait avec lui, l'évidence d'une unité indivisible, elle était aussi assimilée, cette notion de pouvoir constituant, à celle d'un « démos total », pour reprendre une célèbre formulation de Marx dans la critique du droit politique hegelien. Peuple-principe, donc, pleinement identifié aux droits et aux valeurs destinés à le constituer. Fallait-il, en conséquence, laisser ce pouvoir se dissiper après que soit accomplie son œuvre ? Dire, comme Portalis, le rédacteur du Code civil, « c'est la parole du Créateur qui commande une fois pour gouverner toujours ». C'est sa main toute-puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes après avoir donné le mouvement de la vie à tout ce qui existe. Fallait-il, de cette façon suggérée par Portalis, repousser dorénavant une puissance estimée trop radicale, une image dérangeante, voire virtuellement menaçante de la souveraineté du peuple ? Ou bien fallait-il, à l'inverse, trouver le moyen d'en réactualiser la force, d'en faire revivre la capacité d'être volonté directement en acte. La question sera fort débattue au début de la Révolution française, notamment lors du débat qu'on a appelé de révision de la Constitution à l'été 1791. Cette discussion était insérée dans l'interrogation plus large de l'époque sur les moyens de concilier système représentatif et souveraineté du peuple. Bref, de résoudre la porie structurante de la question de la représentation. Certains proposeront dans ce contexte de dénouer la tension fondatrice en proposant de redonner périodiquement vie au pouvoir constituant et d'équilibrer ainsi le risque de despotisme représentatif. C'est une expression qui est alors très fréquente à l'époque que celle de despotisme représentatif. Despotisme inhérent au fonctionnement des pouvoirs constitués. Et Condorcet sera l'un des plus ardents défenseurs de cette façon d'entendre résoudre le dilemme constitutionnel moderne. Son idée était tout simplement de donner une dimension générationnelle à une procédure de révision constitutionnelle de façon à ce que chaque citoyen puisse être impliqué au moins une fois dans sa vie dans la redéfinition des règles organisatrices du contrat social. Mais plus encore que Condorcet, c'est Brissot, le rédacteur du Patriote français, l'une des principales figures du cercle social, qui se fera le champion et le théoricien d'une telle vision du renouveau et du ressurgissement du pouvoir constituant. Et pourtant, c'était un vigoureux défenseur des principes représentatifs, dans l'esprit très voisin d'un Sieyès, pour l'organisation des pouvoirs constitués. Mais cette vision représentative classique pour les pouvoirs constitués se doublait chez lui d'une invitation à laisser toujours ouverte la porte du pouvoir constituant, considérée comme mémoire et actualisation à la fois de la souveraineté originaire du peuple. Brissot se faisait ainsi le défenseur d'une souveraineté véritablement active du peuple, en même temps qu'un théoricien classique du gouvernement représentatif. Il s'est très longuement expliqué sur les conditions de cette articulation dans une consistante brochure de août 1791, Discours sur les conventions. La souveraineté du peuple, insistait-il dans ce texte, n'est qu'un vain mot si elle n'implique pas une suprématie active sur tous les pouvoirs délégués. Et Brissot empruntait là les formules les plus radicales des districts parisiens pour dénoncer, je le cite, l'artifice des tartuffes politiques de ceux qui trompent le peuple en permanence. Ce qu'il refusait, c'était de suivre ceux qui, comme Barnave ou Sieyès ou Roederer, finissaient par effacer la souveraineté du peuple en absolutisant la représentation. Et ce qu'il appelait de ses voeux, c'est ce qu'il a nommé la mise en place d'un pouvoir conservateur de la souveraineté du peuple. Et ce pouvoir, disait-il, nous le connaissons, il existe, ce sont les conventions périodiques de modification de la Constitution. Maintenir vivante la souveraineté du peuple supposait ainsi, selon son extraordinaire formule, de ressusciter à certaines époques le pouvoir constituant. La formule avait alors fait florès et on la retrouve dans de nombreuses brochures. Et c'est de cette manière que Brissot proposait de concilier la fidélité à l'inspiration rousseauiste avec la reconnaissance du caractère incontournable de certaines procédures représentatives. Et il note à cet effet, si Rousseau avait dit que la démocratie pure d'un petit peuple offre plus de liberté qu'une démocratie représentée, il aurait dit une vérité. Mais soutenir qu'on est plus libre du moment où on est représenté, c'est, dit-il, mettre Constantinople à côté de Londres. Et pourtant, il y a quelques distances entre leurs régimes. Rousseau, continue Brissot, n'aurait pas ainsi calomnié le système représentatif s'il avait vu à côté un frein aux entreprises des représentants. Et ce frein, nous le connaissons, ce sont les conventions périodiques. Le système représentatif ne devient tyrannique que là où ce frein n'existe pas. Mais, conclut Brissot, hélas, les conventions n'étaient pas bien connues au moment où il écrivait. Brissot redéfinissait de la sorte le cadre du problème révolutionnaire. Il cessait de l'appréhender en termes uniquement procéduraux, les formes d'intervention du peuple contrebalançant par exemple des tours représentatifs, pour le resituer dans une économie générale du temps politique et des institutions démocratiques représentatives. Brissot avait ainsi proposé de donner forme intermédiaire à ce qu'il appelait l'intervalle immense qui sépare une simple souveraineté autorisation, qui peut à la limite être conçue comme chez Hobbes comme un seul moment originaire, dans lequel histoire et fiction deviennent indissociables, et une souveraineté permanente qui serait celle d'un peuple continuellement législateur et magistrat. En distinguant la politique ordinaire, exécutive et législative, qui met en œuvre une souveraineté déléguée, et une politique extraordinaire, constitutionnelle, qui s'appuie plus directement sur une volonté populaire, Brissot ouvrait ainsi la voie aux théories de la démocratie que l'on qualifie aujourd'hui de dualistes. On parle ainsi de politique politisante opposée à la politique politisée, de démocratie gouvernante opposée à la démocratie gouvernée, ou comme chez Bruce Ackermann, le principal théoricien actuel de cette vision dualiste, de politique normale et de politique constitutionnelle ou révolutionnaire. Les périodes de politique normale étant marquées souvent par une faible participation des citoyens, le rôle majeur joué par les affrontements d'intérêts et celui des appareils, alors que les moments beaucoup plus rares de politique constitutionnelle ou révolutionnaire sont caractérisés, eux, par l'implication, la mobilisation. De la même façon, un autre philosophe américain de la démocratie, Sheldon Wolin, appelait dans ses vœux, dans ses termes, le développement de ce qu'il appelait une démocratie fugitive, liée à une forme de théâtralisation de moments essentiels. Il a tiré de la sorte l'attention, suivant cela nombre d'autres bons auteurs, qu'il était nécessaire de distinguer le champ de la démocratie qui est celui du politique, alors que le champ de l'action gouvernementale est celui de la politique. Il y aura pendant la période révolutionnaire en France bien d'autres façons de chercher à concilier le système représentatif avec une souveraineté populaire directement active. Une des principales suggestions émises était d'inventer, le terme était très fréquent à l'époque, un quatrième pouvoir. Un quatrième pouvoir qui aurait eu pour fonction spécifique d'être justement le gardien de la souveraineté du peuple, en ayant notamment la capacité de s'opposer aux éventuels débordements du pouvoir législatif. Et cette question avait notamment été au cœur des débats du début de l'année 1793, alors que s'amorçait la préparation de la nouvelle Constitution. Et il était question, dans beaucoup de projets, d'institutionnaliser cette fonction de gardiennage du pouvoir constituant, cette fonction de surveillance qui auparavant avait été essentiellement dévolue à l'opinion publique. Et beaucoup chercheront la voie d'établir un régulateur, un surveillant, un tribunal qui soit celui de la conscience du peuple, une force morale. Beaucoup de projets ont été mis en place avec partout un même objectif, c'est de prévenir, l'expression fait florès à l'époque, les crimes de lèse souveraineté du peuple. Et quelqu'un proposera même d'inclure dans le code pénal ce crime de lèse souveraineté du peuple. Il y a aussi la notion qui renaît de celle de tribunal des censeurs. Et c'est le moment de la Révolution pendant lequel on se met à relire les chapitres du contrat social où on se met à relire Montesquieu dans l'esprit des lois pour retrouver les fameux chapitres consacrés aux efforts à Sparte ou les chapitres consacrés aux tribuns à Rome. Ou encore, il suffit de regarder le dictionnaire d'économie politique et diplomatique qui paraît alors de Démenier pour voir les très longues pages qui sont consacrées dans l'article qui fait près de 200 pages consacrées à l'Amérique, qui sont consacrées au Conseil des censeurs qui avait été institué en Pennsylvanie et au Vermont pour contrôler les parlementaires. Et l'architecture du projet présenté par Condorcet à cette période avait été dans ce même sens de la définition de ce que j'ai appelé une souveraineté complexe. Dans toutes ces propositions se retrouvait enfin, en effet, l'idée que ce n'était pas par la visée d'une représentation parfaite, sans frottement, faisant coïncider les représentants et les représentés, que l'on pouvait approcher l'idéal démocratique, qu'il s'agissait au contraire de démultiplier et de pluraliser les procédures représentatives et de concevoir l'institutionnalisation d'une souveraineté de contrôle aux côtés d'une souveraineté d'autorisation. Ces pistes ne seront pas suivies pendant cette période par une démocratie française qui était crispée sur son monisme. Mais ces pistes avaient ouvert des perspectives qui ne cesseront de nourrir des projets d'activation de la démocratie, notamment plus tard, quelques années plus tard en France, où les espèces de jurys constitutionnels, puis de cours du même nom. Les projets et les expériences dont je viens de faire très rapidement mention revenaient au fond à compliquer la démocratie pour tenter de mieux l'accomplir, à introduire en son sein des procédures de révision, de réflexivité ou, on dirait dans le langage informatique d'aujourd'hui, de réinitialisation. Les pathologies de la souveraineté vont se manifester, à l'inverse, sous les espèces de mouvements conjoints d'exacerbation, de polarisation et de simplification de ces formes, prétendant de cette façon résoudre ces apories constituantes sur un mode moniste. Elles peuvent être changées dans les deux grandes catégories que j'ai mentionnées dans mes premiers mots d'introduction, les énergétiques d'un côté et les institutions polarisées de l'autre. Les énergétiques poursuivent la recherche d'une souveraineté accomplie sous les espèces d'une action, accélérant le temps, focalisant l'espace et l'action de manière à constituer des foyers visibles de puissance collective, puissance collective et immédiate, susceptible de rendre malléable le monde. Les institutions polarisées, quant à elles, désignent des formes politiques censées être capables de produire un effet de concentration, résolvant en elles-mêmes la tension entre démocratie directe et système représentatif. Et la principale d'entre elles est la démocratie plébiscitaire, le césarisme, exaltant le pouvoir constituant. Je commence donc par parler des énergétiques de la souveraineté. J'appelle énergétiques les philosophies politiques et les pratiques qui entendent construire une démocratie désinstitutionnalisée, partant de l'idée que toute institutionnalisation est déjà une forme de trahison, de dégradation de l'énergie démocratique. Et elles ont retrouvé à leur façon, ces énergétiques, tout un ensemble d'aspirations et de pratiques révolutionnaires des origines. J'en distinguerai trois figures. D'abord, ce que j'appellerai l'esthétique mouvementiste, qui est bien illustrée par le futurisme italien. En deuxième lieu, la culture de l'insurrection, dont le blanquisme est l'idéal type. Et en troisième lieu, les différentes modalités de justification du pouvoir sans forme, reprenant le concept de Sieyès avec différentes figures, la dictature du prolétariat, le droit politique nazi et la souveraineté activiste. Commençons par la première figure des énergétiques de la souveraineté, le futurisme. Le manifeste du futurisme, qui est ironiquement publié par Marinetti en 1909 en France dans le Figaro, proposait, je le cite, de délivrer l'Italie de sa gangrène de professeurs, de Cicérone et d'antiquaires. Et il voyait dans la muséification du pays, déjà très avancée, sa réduction à un immense cimetière, symbole de l'engloutissement des vivants par les morts dans le pays. Le manifeste futuriste, qualifié aussi de manifeste de violence culbutante et incendiaire, a exprimé de façon exemplaire l'idéal d'une reconquête de la maîtrise du monde. On peut en citer les extraits pour prendre la mesure des modalités suggérées pour opérer cette reconquête, ainsi que l'esprit dans lequel il était proposé de l'accomplir. Nous voulons, dit le manifeste, chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte. Nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course, avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. Nous voulons chanter aussi l'homme qui tient le volant de ce véhicule et dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte, continuait le manifeste. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommer de se coucher devant l'homme. Le temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. Nous voulons, poursuivait le manifeste, aussi glorifier la guerre, la seule hygiène du monde. Le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, ils ajoutaient, et le mépris de la femme. C'était très antiféministe, le manifeste futuriste. Et il disait encore, nous chanterons les grandes foules agitées, des grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte, les ressacs multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes, la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leur violente lune électrique, les gares gloutonnes, avaleuses de serpents qui fument, les usines suspendues aux nuages par les ficelles de leur fumée, les paquebots aventureux flairant l'horizon, les locomotives au grand poitrail qui piaffent sur les rails, tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux, ainsi que le vol glissant des aéroplanes dont l'hélice a des claquements de drapeaux et des applaudissements de foules enthousiastes. Dans ce texte, bien connu, il y a une poétique moderniste et industrielle du futurisme, une peinture surtout, qui a célébré les mouvements de foule, les paroles-actions, les couleurs stridentes, les torsions de la réalité. Fait significatif, c'est d'ailleurs dans ces arts figuratifs que le futurisme a produit ses plus puissants effets. Pensons en particulier au saisissant tableau de Boccioni. Comme si les images disaient mieux que les mots comment le réel pouvait être accéléré, bousculé, réinterprété et dompté. Mais il y a eu aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, une esthétique politique du futurisme. Le mouvement, la vitesse et la guerre donnent à la volonté sa pleine intensité, son efficacité immédiate dans la vision futuriste du monde. L'action y produit en effet des résultats directement visibles. Le futurisme, disait Marinetti, est volonté infatigable. Il est optimisme artificiel opposé à tous les pessimismes chroniques. Et c'est pour cela que Marinetti et les futuristes salueront avec un grand enthousiasme la conquête de la Libye en 1911, avec un nouveau manifeste qui commençait par ces mots « Nous, futuristes, qui depuis plus de 2 ans glorifions l'amour du danger et de la violence, le patriotisme et la guerre, seule hygiène du monde, nous sommes heureux de vivre finalement cette grandeur futuriste d'Italie, tandis qu'agonise l'immonde engeance des pacifistes, terrés désormais dans les caves de leur dérisoire palais de la haie. » Marinetti célébrera ensuite également avec emphase l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés en 1915. Déclarant du même coup, 1915, l'année futuriste, parce qu'il estimait que la guerre actuelle est le plus beau poème futuriste apparu jusqu'ici. On peut aussi rapprocher cette célébration des futuristes de celle de Gabriele D'Annunzio, pour qui la guerre représentait, je le cite, « la perspective de transformer enfin en action un esthétisme jamais totalement résolu sur le papier ». Et sa fameuse occupation de Fiume, en Dalmatie, conduite du 12 septembre 1919 au 21 décembre 1920, avec ses légionnaires, constitua, à la fin de la Première Guerre mondiale, une sorte de laboratoire politique où furent expérimentées des techniques de communication dont s'inspirera directement le fascisme pour mobiliser et nationaliser les masses, en même temps que D'Annunzio entendait développer, disait-il, un pouvoir artiste dans un esprit très voisin de celui du futurisme. Célébré par les fascistes, puis écarté par eux, D'Annunzio avait donné à Fiume un éclat national à une esthétique politisée que les futuristes approfondiront. Cette dimension de leur intervention avait déjà été amorcée en septembre 1918 avec la création de Roma Futurista, journal destiné à lancer le parti politique futuriste. Son manifeste appelait au nationalisme révolutionnaire, à l'éducation patriotique du prolétariat et à une mobilisation industrielle complète. Il est frappant de constater qu'un an plus tard, en 1919, le premier manifeste fasciste, le programme des faisceaux italiens de combat, employait un langage dans lequel on retrouvait nettement trace des textes futuristes. L'adjectif dynamique, par exemple, y était omniprésent. Et après diverses péripéties, Marinetti se rapprochera sans ambiguïté de Mussolini avec la parution en 1924 de son texte « Futurisme et fasciste ». Il ne faut certes pas pousser trop loin le parallélisme entre les deux mouvements. Le futurisme finira par évoluer vers un certain maniérisme et le fascisme se fera progressivement beaucoup plus conservateur. Mais avec son vitalisme, le futurisme a cependant bien indiqué la voie d'une énergétique mouvementiste et militariste, capable d'incarner une volonté à laquelle les politiciens professionnels étaient accusés d'avoir renoncé. Les mots de vitesse et de mobilisation en résumeront pour cela l'esprit. Mais c'était aussi célébrer par avance l'action des chemises noires pour lesquelles la brutalité devait justement être considérée comme la métaphore d'une souveraineté active du peuple, d'une effectivité immédiate de la volonté. Avec les sections d'assaut nazies, elles ont fait écho à l'exaltation futuriste. Je recite ce passage du manifeste du mouvement agressif, de la gifle et du coup de poing. Un deuxième type d'énergétique de la souveraineté, c'est ce que j'appellerais la culture de l'insurrection. Pendant la Révolution française, l'insurrection avait été considérée, on le sait, comme, je cite, « le plus saint des devoirs ». Elle renvoyait en effet à l'idée d'un peuple vigilant qui était prêt à se mobiliser, à descendre dans la rue, si les institutions républicaines étaient en danger et qui était prompt à se ressaisir de sa souveraineté originaire si celle-ci menaçait d'être confisquée, qui était déterminé à se rassembler et à agir pour imposer le retour à l'ordre démocratique. Au XIXe siècle, cette culture de l'insurrection avait pris à plusieurs reprises le visage des révolutions de 1830, de 1848, ou aussi des actions très importantes de l'année 1832, prenant à ce moment-là le visage de ce que Hugo avait appelé dans Les Misérables une insurrection-résurrection, qui traduisait le sursaut moral et l'action décidée d'un peuple qui n'en pouvait plus et qui ouvrait la voie à une révolution débouchant elle-même sur un changement de régime. L'insurrection avait alors été le seul moyen de prendre la parole et d'imposer la volonté d'une société bâillonnée par le suffrage censitaire. Le suffrage universel, en avait conclu Hugo dans une formule célèbre, le suffrage universel a cela d'admirable qu'il dissout l'émeute en son principe et qu'en donnant le vote à l'insurrection, il lui ôte l'arme. Et l'on sait l'importance qu'aura dans l'imagerie populaire de la période l'opposition de l'urne et du fusil. Il traduira la telle perception partagée d'une économie de la souveraineté et de l'action politique. Mais à côté de cette conception que l'on pourrait qualifier d'instrumentale de l'insurrection, c'est aussi un type d'anthropologie politique qu'elle a renvoyé. Elle constituait, en effet, aux yeux de ses acteurs, une véritable forme politique et sociale, pleinement positive en elle-même. Avec elle, s'exprimer dans l'insurrection une morale de l'engagement, s'affirmer une libre souveraineté de l'individu, en même temps qu'une force collective. Ces insurgés, et la littérature qui a parlé d'eux, et l'iconographie qui les a montrés, ainsi souvent célébré l'espèce de fonction d'incarnation qui s'opérait dans le soulèvement populaire, qui rendait immédiatement visible et sensible la figure d'un peuple fier et souverain. Dans l'insurrection, ce peuple exprimait une puissance originaire, une force directement agissante, un pouvoir sans forme à nouveau, qui résolvait de la sorte la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection venait même à se confondre de la sorte avec le peuple lui-même, la forme politique et la figure sociale s'épousant parfaitement dans une forme enfin adéquate de la généralité sociale. Et dans les grands récits de ces moments historiques, on finissait d'ailleurs par parler, comme si ça allait de soi, on parlait d'une insurrection comme une personne qui avançait, reculait, souffrait, laisser éclater sa joie, imposer le respect ou s'abîmer dans l'ivresse. Toute une poétique de la barricade a ainsi prolongé, surtout dans les années 1830 et 1840, cette célébration morale et politique de l'insurrection. Son caractère militairement dérisoire, qui a tôt été moqué et stigmatisé par Marx, pesait ainsi peu par rapport à sa dimension indissociablement morale et symbolique. Avec la barricade, l'insurrection prenait forme en même temps qu'elle prenait force, pourrait-on dire. Elle fixait un but aux insurgés et leur donnait une identité lisible. Elle s'imposait enfin comme une sorte de puissance morale érigée dans la ville sous les espèces d'une protestation matérielle. Mais l'insurrection a aussi été comprise beaucoup plus radicalement par certains, comme la seule et indépassable réalisation de l'idée de souveraineté du peuple. Et c'est Blanqui qui a érigé cette philosophie politique de l'insurrection en vérité d'un idéal d'émancipation démocratique. Pour lui, l'insurrection n'était pas simplement un moyen, une forme d'action parmi d'autres. Elle constituait en elle-même, selon son extraordinaire formule, un acte foudroyant de souveraineté. Elle incarnait pour cela l'idée démocratique débarrassée de ses contingences menaçantes, solution enfin trouvée dans l'action aux apories premières de la souveraineté du peuple. En elle prenait ainsi forme une sorte de démocratie utopique, affranchie de toute disposition institutionnelle précise. Et énergique est effectivement l'un des adjectifs clés du vocabulaire de Blanqui. L'énergie était, dans son esprit, ce qui dissolvait les résistances, ce qui permettait d'opérer une fusion des personnes et des choses, ce qui transfigurait la réalité. L'inactivité, c'est la mort, résumait-il lapidairement. L'objectif n'était donc pas seulement pour lui de prôner des ruptures contre ceux qui étaient les adeptes de demi-mesures. Son propos n'était pas d'opposer la radicalité d'un processus révolutionnaire aux illusions des pratiques réformistes. Il s'agissait d'abord et avant tout de placer une véritable énergétique au fondement même de la politique. Et le moyen et la fin se superposaient parfaitement dans l'action conçue de la sorte. La politique était dans ce cas directement une force de vie et une puissance créatrice qui abolissait en son principe, la distance mortelle entre les intentions et la réalité. Elle se signifiait elle-même directement, pourrait-on dire, en paraphrasant un texte célèbre de Marx dans la critique du droit politique hegélien. Plus, la voie des armes était dans cette perspective la seule qui accomplissait pleinement la volonté. En elle, par cette voie des armes, se résorbait en effet tout écart destructeur entre les mots et les choses. Elle était un accord parfaitement réalisé de la puissance et de la parole. En présence des prolétaires armés, résumait Blanqui, obstacle, résistance, impossibilité, tout disparaît. Derrière l'énergétique de Blanqui, c'est la perspective d'une désinstitutionnalisation radicale de la politique qui était célébrée. Il retrouverait là les intuitions d'un Sade et les impatiences d'un Hébert. L'insurrection, écrivait en effet déjà l'auteur de la philosophie dans le boudoir, doit être l'état permanent d'une république. Cette plate bouffonnerie qu'on appelle si pompeusement nos institutions, nous n'en avons guère souci, dira en écho Blanqui. Poursuivant, nous qui sommes profondément indifférents à la forme et qui allons droit au fond de la société. La politique n'existait donc pour lui que comme engagement dans une action qui était sa propre finalité. Il était là exactement aux antipodes d'un Lamartine. Lamartine opposait les deux républiques de 1792 et de 1848. Il disait « La république de 1792 a été un combat, celle de 1848 a réussi à devenir une institution. » Et Blanqui, lui, refusait justement cette opposition du combat et de l'institution, car toute institution était déjà pour lui une forme d'abandon. Il voulait plutôt, lui, renouer avec l'état des hébertistes de 1794. Et comme Hébert, l'enragé, il ne croyait qu'à la force décapante de l'action, à la puissance immédiatement régénératrice de la destruction de l'ordre établi, à la tension qui maintient intacte l'intention première. Et le système représentatif était intrinsèquement critiquable à ses yeux, car il ne pouvait échapper aux pesanteurs et aux contradictions qui le fondent. Blanqui a aussi été, d'ailleurs, le premier à employer le terme de foire pour qualifier la duperie électorale, en même temps que reviennent constamment sous sa plume les expressions de bétail ou de troupeau pour décrire la masse des électeurs manipulés, et on sait qu'il avait plaidé pour repousser sine die les élections en 1848. Et le système représentatif, disait-il, n'est qu'un fétichisme qui coûte cher au peuple. Le but était pour lui ainsi absorbé dans les moyens. Seul comptaient ces derniers. Aussi ne s'intéressait-il ni aux utopies, ni aux programmes. Le pouvoir créateur d'un monde nouveau ne leur était lié en rien à ses yeux. Ce pouvoir créateur, il résidait tout entier dans le processus même de la subversion révolutionnaire. Et les quelques milliers d'individus qui ont participé aux diverses sociétés secrètes dont il était l'instigateur ont d'ailleurs presque tous, à l'exception de Tridon, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages célèbres, dont un ouvrage sur les hébertistes, justement, qui sera un ouvrage culte du mouvement boulangiste aussi, ils ont tous été, pour l'essentiel, des hommes de terrain, envoûtés par le côté militaire et clandestin des entreprises projetées. C'est d'ailleurs aussi ce qui a expliqué l'éclatement de la famille blanquiste après la disparition de son chef. Le goût du commun les a conduits aussi bien à l'extrême droite que dans les milieux anarchistes et libertaires, avec toujours en arrière-plan le mépris d'un peuple réel estimé incapable et l'appel à une dictature révolutionnaire seule susceptible de fonder la politique. Comme Barbès, il pensait que ce qui compte, ce n'est pas, je le cite, la souveraineté du but, ce n'est pas la souveraineté du peuple, pardon, mais la souveraineté du but. Il fallait donc nécessairement pour lui qu'existe un peuple considéré comme avachi. Il emploie même l'expression « une tourbe d'esclaves et d'abrutis » pour que la vigueur des maîtres révolutionnaires prenne tout son relief et affirme son énergique souveraineté dans une division assumée des tâches et des existences. Il n'y a de vrais révolutionnaires, disait Blanqui, que les instituteurs du peuple. Et la réalisation de la souveraineté du peuple impliquait donc que ses guides créent le peuple nouveau adapté en cette tâche pour résoudre ce qu'il appelait les énigmes du sphinx social. Blanqui était bien à cet égard une sorte d'anti-Guizot. Il en reproduisait dans l'univers inversé au sien de la révolution et de l'insurrection la vision capacitaire et l'idée d'une souveraineté de la raison. Victor Hugo dira « Il y avait dans cet homme un aristocrate brisé et foulé aux pieds par un démagogue. » C'était sa formule qu'il employait pour expliquer les contradictions du personnage et la nature du projet dont il s'était fait le héros. Troisième catégorie d'énergétique de la souveraineté, celle qui développe un pouvoir sans forme et sans règle. Le pouvoir constituant, on l'a dit, présente un caractère particulier au point de vue juridique. Parce qu'il est créateur d'un ordre nouveau, la puissance qu'il recèle est bien de fait rebelle à une intégration dans un système hiérarchisé de normes et de compétences. Dans son cas, on peut vraiment reprendre la formule fameuse de Sieyès : la réalité est tout, la forme n'est rien. Et les juristes ont beaucoup discuté de cette formule et de cette qualité particulière du pouvoir constituant. Et si la plus grande part d'entre eux ont conclu que le pouvoir constituant était du même coup à l'extérieur d'un ordre normatif, stricto sensu, il n'est cependant pas complètement extérieur à l'idée d'un ordre juridique, parce que sa visée est bien juridique d'abord, puisque le pouvoir constituant se donne pour tâche d'établir un ordre juridique. Il se subordonne donc sur le mode de sa raison d'être à une certaine idée du droit. Et il n'est pas non plus ensuite une force purement matérielle, puisqu'il procède généralement d'une situation révolutionnaire engendrée par le sentiment d'un insupportable désordre établi, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle le droit soit n'existe pas, soit il a été bafoué. Mais la fascination que n'a cessé d'exercer ce pouvoir constituant ne tient pas à ce caractère formellement équivoque au regard d'une stricte théorie des normes. Elle se lie surtout au fait qu'il a laissé entrevoir la possibilité de considérer d'un œil neuf une certaine radicalité politique en faisant advenir un monde immédiatement malléable dans lequel l'action n'est bornée par aucune règle. Il y a eu historiquement plusieurs figures de cette transmutation des caractéristiques d'un moment constituant, nécessairement limité dans le temps, dans une théorie politique constituée. On peut en distinguer trois. Celle d'un état d'urgence structurel qui consiste à étirer le moment constituant. En second lieu, celle d'un peuple état de nature qui préexisterait à tout droit positif, façon de naturaliser la volonté constituante. Et en troisième lieu, celle d'un activisme permanent qui puisse maintenir l'absence totale de détermination qui est au fondement du pouvoir constituant. La première figure, celle de l'état structurel d'urgence. Elle revient à passer d'une définition propre du mouvement constituant, comme période brève d'écriture d'une constitution, à une définition figurée, la période nécessairement beaucoup plus longue, de construction d'une société nouvelle ou de développement d'un projet politique. Dans le vocabulaire marxiste-léniniste, c'est exactement ce à quoi correspondait la notion de dictature du prolétariat, comme période de non-droit au sens strict du terme, c'est-à-dire l'existence d'une norme objective applicable à tous les individus. Appréhendé au regard de son caractère anté-juridique, le pouvoir constituant est en effet assimilable à des situations d'état de siège, d'état d'urgence ou de loi martiale, qui se traduisent par la suspension de certains droits et la concentration de pouvoirs extraordinaires entre les mains de l'exécutif. La dictature du prolétariat, écrivait ainsi Lénine dans L'État et la Révolution, est la domination du prolétariat sur la bourgeoisie, domination qui n'est pas limitée par la loi, qui s'appuie sur la violence et jouit de la sympathie et du soutien des masses laborieuses et exploitées. Domination qui n'était pas limitée dans le temps, puisque son exercice s'imposait de façon continue pour mener la révolution prolétarienne jusqu'à la victoire complète et définitive du socialisme. Selon le mot de Lénine, la transition du capitalisme au communisme, c'est toute une époque historique. Donc ce n'est pas simplement un moment de préparation de textes organisant la vie commune. Une époque historique nécessairement inscrit donc dans la longue durée. C'est, dit-il encore, la guerre la plus héroïque et la plus implacable de la nouvelle classe contre un ennemi plus puissant, contre la bourgeoisie, dont la résistance est décuplée du fait de son renversement. C'est une lutte opiniâtre, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions de la vieille société. Ce sont des formules empruntées à la maladie infantile du communisme. d'où le violent emportement du pouvoir soviétique contre Kautsky. Kautsky qui critiquait la révolution soviétique en rappelant la nécessité de défendre les valeurs démocratiques. Lénine puis Staline lui répondront de façon cinglante sur ce point. La dictature du prolétariat, dira Lénine à Kautsky, dans un fameux texte sur la révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, tome 28 des œuvres complètes, la dictature du prolétariat ne peut être la démocratie intégrale, la démocratie pour tous et pour les riches et pour les pauvres. La dictature du prolétariat doit être un État démocratique d'une manière nouvelle pour les prolétaires, mais dictatoriale d'une manière nouvelle contre la bourgeoisie. Sous la dictature du prolétariat, la démocratie est une démocratie prolétarienne, celle de la majorité exploitée, basée sur la limitation des droits de la minorité exploiteuse et dirigée contre cette minorité. C'est une formule de Staline dans les principes du léninisme. Tant que le communisme n'est pas constitué, le pouvoir du prolétariat restait donc d'ordre constituant et n'était pour cela soumis à aucune règle que celle de sa conservation et de son développement. C'était là une façon radicalement extensive de comprendre la notion de pouvoir sans forme de Sieyès comme forme la plus juste de la souveraineté du peuple. La deuxième figure d'une souveraineté extraordinaire est celle de l'État nazi, dont Carl Schmitt fut l'un des principaux théoriciens. Nous avons déjà croisé son œuvre. Dans le chapitre sur le pouvoir constituant de sa théorie de la Constitution, la Verfassung Lehre, il notait, je le cite, « Une constitution ne repose pas sur une norme dont la justesse serait la raison de sa validité. Elle repose sur une décision politique émanant d'un être politique sur le genre et la forme de son propre être. » Le moment constituant était donc pour Schmitt celui du déploiement d'une volonté politique dont l'objet premier était de donner consistance au sujet politique qu'est le peuple et non pas à la production de règles. Schmitt, qui lui avait beaucoup lu et médité Sieyès, considérait ce peuple comme la nation chez le français, comme étant dans l'état de nature. « Tant qu'un peuple a la volonté d'exister politiquement, disait Schmitt, il était au-dessus de toute institutionnalisation et de toute normation. Le peuple existe en tant que puissance non organisée. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas non plus être dissous. Le peuple est donc dans la nature, le peuple n'est pas constitué comme une communauté politique. Mais la nature raciale de ce peuple entraîner une conséquence majeure pour lui, l'existence d'une dualité juridique fondamentale. À côté du droit libéral, normatif, positif, devait en effet subsister, et c'était pour lui l'essentiel, une notion politique de la loi. Cette dernière était volonté politique concrète, c'est-à-dire, elle était, je le cite, un être politique concret. Et le pouvoir constituant devait rester de cette façon, toujours vivant, pour veiller à la juste consistance du peuple, qu'il le fasse sous cette dénomination ou sous une autre. Il y a toujours la présence nécessaire d'un pouvoir sans forme et sans règles pour maintenir le peuple en son intégrité et en sa pureté. C'est ce qui définissait la supériorité du droit naturel du peuple, surtout le droit positif, dans la théorie nazie du droit. Peut, en troisième lieu, être distingué ce que j'appellerais une souveraineté activiste. Là, ce sont les réflexions d'Antonio Negri dans son essai sur les alternatives de la modernité qui en ont dessiné le plus clairement les contours. Parler du pouvoir constituant, écrit-il, c'est parler de démocratie. Ainsi commence son ouvrage, dont les formulations de Sieyès ont là aussi nourri le ressort conceptuel. La vraie démocratie est ainsi pour Negri la forme politique qui ne se fiche jamais en pouvoir constitué. Elle est donc assimilée au mouvement même de la révolution. Chez lui, démocratie égale pouvoir constituant égale révolution. Son pouvoir constituant n'est donc pas celui de la science juridique qui est borné à un pouvoir source, à une sorte d'étape préalable de la constitution d'une politique qui serait ensuite normale. Toutes ces caractéristiques sont réinvesties, remobilisées dans une pragmatique politique. Et il les décline successivement, un certain nombre de formulations que je rappelle. création d'un temps doté d'une prodigieuse capacité d'accélération, temps de l'événement, temps où la singularité accède à la généralité, un pouvoir à la fois expansif et illimité dans l'espace. Émergence, écrit-il encore, hors du tourbillon du vide, de l'abîme de l'absence de détermination, comme besoin totalement ouvert. Existe aussi, dit-il toujours, comme dilatation révolutionnaire de la capacité humaine de faire l'histoire, comme acte fondamental d'innovation et donc comme procédure absolue. Ce type de pouvoir constituant que Negri veut instaurer en forme accomplie de la démocratie implique donc le ferme refus de l'enclore, de le retenir et de le ramener dans des catégories du droit, ou encore, selon sa formule, de le réduire à la routine administrative. Et c'est pour cela qu'il appelle dans ce livre à écarter vigoureusement, je le cite, « toute philosophie qui débouche, même héroïquement, sur des conclusions institutionnalistes ». Il s'agit au contraire pour lui de maintenir ouvert ce que la pensée juridique voudrait refermer. Faire en sorte, je le cite, que le processus que le pouvoir constituant met en branle ne s'arrête plus. Et par là, de construire un surcroît d'être éthique, d'être social, de communauté. Il n'est pas facile de comprendre ce que recouvrent pratiquement ces formules, car elles peuvent, à minima, être rapprochées, par exemple, de l'exigence d'un Claude Lefort de voir l'idée démocratique maintenue dans l'exigence d'un travail sur elle-même, permanent, d'un travail sur elle-même qui ne soit jamais achevé, à milieu donc de l'attente d'un grand soir. Elles peuvent aussi être rapportées à une esthétique romantique de l'impatience ou de l'attrait pour un désordre créateur. Mais elles peuvent tout aussi bien inviter à une désinstitutionnalisation absolue de la politique et consacrer les actes de rupture les plus extrêmes, à penser impossible, donc encore, le progrès des institutions démocratiques. Et c'est là alors, dans cette troisième interprétation, une façon de penser la démocratie sur le mode de son retournement contre elle-même, laissant de fait le monde réel et la société à un abandon qui ne serait plus contrarié que par des actes désespérés et isolés. Ces différentes pathologies de la souveraineté que j'ai rangées sur la catégorie d'énergétique ont ainsi tout en commun de conduire à faire régresser la démocratie, voire même de la faire disparaître dans certains cas, en prétendant l'enrichir et l'accomplir. Mais il y a d'autres pathologies de la souveraineté qu'il faut ensuite analyser, c'est celles qui voudront la consacrer sous des formes institutionnelles nouvelles, formes institutionnelles qui, en France et en Allemagne, prendra le nom de démocratie plébiscitaire, et c'est ce que nous analyserons tout à l'heure.